Bonjour, très chers amis de Toulouse. Quel bonheur, quelle joie pour Francine et moi de quitter quelques instants la grisaille et la pluie de la Belgique pour être avec vous dans cette région baignée de soleil, cette région du sud, ça nous fait du bien. On a pu visiter un peu votre belle ville de Toulouse hier et c'était la première fois que nous sommes ici et nous sommes très réjouis, en tout cas, d'être avec vous. Quand on parlait de décalage, donc on a décalé ce matin, je pense, l'horaire habituel du culte d'un quart d'heure. Hein. Parce que c'est assez difficile de se lever quand même le dimanche matin. Vous ne trouvez pas que c'est difficile? Non? Il y a toujours des gens plus extraordinaires que les autres. Ça me rappelle cette histoire. C'est une maman qui, le dimanche matin, va dans la chambre de son fils et lui dit « Lève-toi mon fils, c'est l'heure d'aller à l'église ». Et puis elle redescend, elle attend quelques minutes et puis elle voit que rien ne se passe. Alors elle retourne dans la chambre de son fils qui est toujours endormi. Elle le secoue un bon coup, elle lui dit « Lève-toi mon fils, c'est l'heure d'aller au culte, tu dois te lever pour aller à l'église ». « Non maman, si tu dois te lever pour aller à l'église ». « Non maman, je n'irai pas ». « Mais si, tu dois aller à l'église ». ».« Non maman, je n'irai pas ». Il y a deux raisons pour lesquelles je ne veux pas y aller. Premièrement, ces gens ne m'aiment pas. Et deuxièmement, je n'aime pas ces gens. Sans se démonter, sa mère lui répond « Écoute mon fils, il y a deux raisons pour lesquelles tu dois aller à l'église. Premièrement, tu as 42 ans et deuxièmement, tu es le pasteur de l'église. » Bon, il ne s'appelle pas Michel. Michael Jackson ou Jésus. Et je suppose que ce thème vous a certainement interpellé. Alors ceux qui s'attendent à me voir danser et chanter comme Michael Jackson vont être déçus, les autres vont être rassurés. Mais ces derniers temps, et depuis la mort de Michael Jackson, particulièrement cette année, on a multiplié les hommages pour célébrer le grand artiste qui a été Michael Jackson, notamment Victoire de la musique, qui a eu toute une partie du temps qui lui a été consacrée, et puis après le premier anniversaire de sa mort, aussi, on a beaucoup parlé de Michael Jackson, surtout qu'on va sortir un CD avec quelques morceaux inédits de cet artiste. Tout ça pour nous rappeler l'importance du personnage et l'impact qu'il a laissé au travers de sa musique. Mais vous allez me demander quel rapport il y a entre Michael Jackson et Jésus. Bien, au départ, ce n'est pas moi qui l'ai fait. Mais je vais y venir, mais j'aimerais d'abord vous lire un passage du Nouveau Testament qu'on trouve dans le livre des Actes, au chapitre 17 et... les versets 1 à 6, et pour ceux qui ont leur Bible, vous pouvez suivre avec moi. Donc, Actes des Apôtres, chapitre 17, versets 1 à 6. Cet événement se situe pendant le deuxième voyage de l'apôtre Paul. Il a fait plusieurs voyages et c'est pendant le deuxième. Il était avec son compagnon de voyage, Silas. Et nous lisons ceci, « Paul et Silas passèrent par Amphipolis et Apollonie et arrivèrent à Thessalonique, donc c'est en Grèce, actuel, où les Juifs avaient une synagogue, donc un temple un peu comme le nôtre. Paul y entra, selon sa coutume, et pendant trois sabbats, il eut avec eux des entretiens d'après les Écritures. Il expliquait et exposait que le Christ devait souffrir et ressusciter d'entre les morts. « Et Jésus que je vous annonce, disait-il, c'est lui qui est le Christ. » Quelques-uns d'entre eux furent persuadés, se joignirent à Paul et à Silas, ainsi qu'une grande multitude de Grecs craignant Dieu et plusieurs femmes parmi les plus notables. Mais les Juifs, jaloux, prirent avec eux quelques hommes de rien parmi la populace et provoquèrent des attroupements ainsi que du tumulte dans la ville. Ils se portèrent à la maison de Jason et cherchèrent Paul et Silas pour les amener devant le peuple. Ils ne les trouvèrent pas. Alors ils traînèrent Jason et quelques frères devant les magistrats en criant « Ceux-ci qui ont bouleversé le monde entier » sont aussi venus ici, et Jason les a reçus. » Et j'aimerais m'arrêter sur ce verset 6, qui dit ceci, « Ces gens qui ont bouleversé le monde entier sont aussi venus ici. » De qui parle-t-on, ces gens qui ont bouleversé le monde? On parle ici des apôtres, des premiers chrétiens qui ont véritablement changé la face du monde en proclamant l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et vous allez me dire encore, mais je ne vois toujours pas le lien, mais... j'y arrive. La question d'aujourd'hui m'a été inspirée par cet événement qui a secoué le monde de la musique pop l'année dernière. Je pense qu'à moins d'avoir fait un séjour prolongé sur la Lune, plus personne n'ignore que Michael Jackson est décédé le 25 juin 2009. Et je vais simplement poser la question, qui ne connaît pas Michael Jackson ? Ben voilà. Vous n'étiez donc pas sur la Lune. Mais c'est vrai que pour ceux qui étaient fans de l'artiste, c'est un peu comme si la Terre s'ouvrait sous leurs pieds, n'est-ce pas ? Ils ont été surpris par la brutalité de son décès. Et ça a été un événement planétaire, on n'a parlé que de ça dans tous les médias, et ils ont rivalisé de slogans les plus extrêmes. Et chaque fois à cette époque que j'ouvrais ma radio, en voiture, j'allumais la radio, j'entendais ceci. La mort de Michael Jackson a bouleversé le monde. Je rentrais chez moi, j'allumais la radio. La mort de Michael Jackson a bouleversé le monde. Il s'agissait de lancer un numéro spécial d'un magazine qui voulait célébrer l'artiste. La mort de Michael Jackson a bouleversé le monde. Parmi les 500 000 messages qui ont été postés sur le site Twitter, un de ses fans a écrit « Le monde ne sera plus jamais le même ». Et j'entendais ça, mais je me dis « Mais c'est tellement facile de dire ça et d'écrire ça. Mais est-ce que c'est vrai ? Est-ce que la mort de Michael Jackson a réellement bouleversé le monde ? Et sa vie ? Est-ce que sa vie a bouleversé le monde ? Est-ce que la vie de Michael Jackson a changé quelque chose dans le monde ? Et puis j'ai poursuivi ma réflexion, puis je continuais à lire évidemment dans les médias ce qu'on disait de lui, et j'ai fait, comme beaucoup d'observateurs, de commentateurs, le rapprochement avec un autre personnage que je connais beaucoup mieux. Et je lisais notamment ce qu'un journaliste écrivait, Serge Kaganski, chroniqueur de la revue Les Inrecuptibles. Il écrivait ceci, « À part Obama, on ne voit pas quelle disparition aurait plus d'effet aujourd'hui. » Les Beatles se disaient plus connus que Jésus-Christ. Michael Jackson est plus fameux que les Beatles. Vous voyez, n'est-ce pas, où se situe maintenant le parallèle. Et d'autres journalistes ont continué à faire ce lien entre Jésus-Christ et Michael Jackson, notamment un quotidien belge qui titrait sur le reportage des funérailles et qui donc il y avait ce titre en une, « La dernière scène » de Michael Jackson, évidemment en jouant sur l'ambiguïté de l'orthographe du mot scène, allusion évidente à la dernière scène de Jésus et de ses apôtres. Et là aussi, je me suis dit que ceux qui font ce parallèle entre Michael Jackson et Jésus-Christ connaissent manifestement mieux Michael Jackson que Jésus-Christ. Alors, je me suis dit, mais ce serait peut-être bien d'aller plus loin dans la réflexion et de comparer non seulement la mort de Michael Jackson et la mort de Jésus-Christ, mais aussi leur vie. Et j'aimerais que nous réfléchissions sur trois questions. Premièrement, quel est l'impact de la vie et de la mort de Michael Jackson ? Quelle trace laissera-t-il dans ce monde ? Deuxièmement, quel est l'impact de la vie et de la mort de Jésus-Christ ? Quelle trace a-t-il laissé dans ce monde ? Et troisièmement, quelle influence l'un et l'autre peuvent avoir sur ma vie aujourd'hui ? La vie de Michael Jackson, tout d'abord. On peut dire qu'on n'a rien perdu de sa vie parce qu'elle a été surexposée dans les médias. En effet, grâce ou plutôt à cause des médias, nous n'avons pas perdu une miette de sa vie. C'est peut-être une explication partielle, en tout cas, du drame de sa vie. Michael Jackson, toute sa vie, a vécu dans la lumière. Mais c'était une lumière artificielle. C'était la lumière des projecteurs. Et nous savons que sa vie présente beaucoup de zones d'ombre, de périodes sombres, de coins obscurs, beaucoup moins glorieuses que l'image que les médias donnaient de lui. On l'appelait le roi de la pop musique, mais son règne a été bien éphémère. Certains en faisaient même un dieu vivant, tellement ils l'adoraient, ils étaient tellement fan de lui. Mais aujourd'hui, où est-il, ce Dieu vivant ? Qu'est-il, sinon, un homme mort ? On multiplie les hommages plus d'un an après. Évidemment, ça fait vendre, hein, ça fait marcher le business. Mais dans 50 ans, qui se souviendra encore de Michael Jackson ? Dans 50 ans, peut-être quelques fans vieillissants qui essayeront encore d'interpréter son fameux pas de danse, là, je ne vais même pas essayer de vous le faire, le moonwalk, mais alors ce sera avec une canne ou en chaise roulante, hein, je ne sais pas. Michael Jackson était l'un des hommes les plus admirés, les plus adulés, les plus enviés de toute la planète. Mais cet homme était-il heureux? Manifestement, non. Première chose qui nous frappe, c'est qu'il était seul, profondément seul. Cet homme qui avait des centaines, de milliers de fans, était profondément seul. Vous savez, on vit dans une société qui a voulu libérer les mœurs et qui nous a incité à multiplier les relations. Et qu'est-ce qu'on constate? Que la liberté des mœurs a enchaîné l'amour. Et que, au lieu justement de relier les gens, ils sont de plus en plus solitaires. On parle aujourd'hui, on a inventé de nouveaux mots pour cette situation, les solobataires, ceux qui sont célibataires solitaires, les solobataires. Il y en a de plus en plus dans notre société de communication, de libération, etc., soi-disant. Michael Jackson était seul. Il vivait dans sa bulle aseptisée. Quand il se déplaçait à l'extérieur, il dissimulait son visage sous un masque noir. Il semblait avoir tout le temps peur. Il ne pouvait pas vivre, nous le savons, sans tranquillisants, sans antidouleurs. Et en ça, il nous rappelle un autre roi tout aussi éphémère, le roi du rock, Elvis Presley, qui a été brûlé avant l'âge, consumé par les abus de médicaments, brûlé par les feux de la rampe. Même style de vie, même destinée. Les hommes les plus enviés du monde entier. Michael Jackson ne supportait pas son apparence physique. Il l'a modifié un nombre incalculable de fois quand on prend les photos avant et après. C'est frappant, n'est-ce pas? Cet homme ne se supportait pas. Il semblait incapable de développer une relation sentimentale. Et nous avons appris que toute sa vie et depuis son enfance, il a manqué d'amour. Des millions de gens aimaient l'artiste, le musicien génial, le chanteur, le danseur. Mais qui aimait l'homme? Qui aimait l'homme avec ses blessures, avec ses fêlures, avec ses questions? Qui l'aimait pour lui-même? De ce que les médias nous disent de lui, il devait acheter l'affection. Il pensait sans doute qu'avec l'argent, il pouvait tout acheter, que ce soit les choses ou les gens, mais bien vite, il a dû comprendre que l'argent n'achète pas tout. Et surtout pas l'amour. Jésus a dit que servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perdait son âme? Michael Jackson a gagné des fortunes qu'il a dilapidées, dépensées à des tas de choses futiles. Cet homme, selon les critères de ce monde, avait tout pour être heureux, tout ce à quoi les gens aspirent aujourd'hui, tout ce après quoi ils courent comme des fous, tout ce pour quoi ils s'agitent. Tout ce qu'ils identifient comme les ingrédients du bonheur, il avait le talent, la gloire, la popularité, le succès, la richesse. Un seul de ces éléments suffirait à la plupart des gens pour être heureux. Michael Jackson avait tout ça et il n'était pas heureux. Qu'a-t-il fait pour changer le monde? Chaque être humain, même le plus modeste, devrait pouvoir changer le monde, même une toute petite partie du monde. Sinon, à quoi sert notre passage sur la terre s'il ne sert pas à rendre le monde meilleur? Bien sûr, maintenant qu'il est mort, on part. Michael Jackson, de toutes les vertus, c'est ce qu'on fait quand quelqu'un est mort. On rappelle ses œuvres caritatives, ses donations, toujours évidemment devant les caméras, toujours très médiatisées. Et c'est vrai que avec les moyens financiers dont qu'il avait à sa disposition, il a pu faire du bien, il a pu lui aider, peut-être des dizaines, des centaines, voire même des milliers de personnes, certainement, mais guère plus. Et en dehors de la musique, je concède que c'est pas rien la musique, mais son influence restera minime, il ne changera pas l'histoire, ni l'histoire avec un grand H, ni même l'histoire avec un petit H, notre propre histoire. Michael Jackson était visiblement malheureux. Et il était, je pense, très conscient de son état. Il était même assez clairvoyant sur l'origine de son malheur. On sait que les chanteurs ne chantent pas forcément leur propre vie, mais évidemment, il arrive parfois que les paroles de leurs chansons nous dévoilent un peu le fond de leur personnalité et leur état d'esprit. Et vous savez, en dehors de sa célébrité et de sa gloire, ses richesses, Michael Jackson n'était pas différent du commun des mortels. Et dans une de ses chansons, que vous connaissez sans doute, c'est la chanson « Bed », il fait preuve d'une grande lucidité sur son propre état, qui est aussi celui de chaque être humain. Alors vous connaissez cette chanson dont les paroles sont assez recherchées, je vais vous les citer. « I'm bed, come on, bed, bed, really bed, come on, I'm bed, you know it, bed, bed, really, really bed. » Très recherché. Pour ceux qui n'ont aucune notion d'anglais, je vais vous traduire. Je suis mauvais. Allez, mauvais, vraiment mauvais. Tu sais que je suis mauvais. Je suis mauvais, tu le sais. Mauvais, vraiment mauvais. Je pense que ce n'est pas seulement l'affectation de quelqu'un qui joue au mauvais garçon. Mais là, Michael Jackson énonce une vérité fondamentale. C'est la confession d'un homme qui se reconnaît tel qu'il est. Bad, mauvais. Et tout homme devrait avoir l'honnêteté, la lucidité de Michael Jackson et se reconnaître tel qu'il est. Vraiment, dans la profondeur, dans la noirceur de son âme, nous sommes tous mauvais. Vraiment mauvais. Nous sommes mauvais par notre nature d'être humain. Nous sommes mauvais par nos pensées, par nos paroles, par nos actes, par les choix que nous posons tous les jours. La Bible le dit. Quand elle décrit la nature de l'homme, tous ont péché, tous ont désobéi à la loi de Dieu qui parmi nous a respecté tout le temps tous les commandements de Dieu. Personne, hein. Commencez par celui qui vous parle. Pour savoir si nous sommes bons, examinons simplement les pensées que nous avons pendant une journée. C'est très révélateur de notre véritable nature. Un journaliste a parfaitement perçu le cri de l'humanité qui a été lancé au travers de la vie et de la mort de Michael Jackson, lorsqu'il écrit « Et si finalement la vie de Michael Jackson n'était que le reflet ambigu de ce à quoi nous aspirons ? Un désir terrible de reconnaissance, ce désir de reconnaissance, il confine à un secret espoir d'immortalité. » Que cherchait Michael Jackson ? Ce que nous recherchons tous, la reconnaissance, autrement dit l'amour et la vie éternelle. Qu'en est-il maintenant de Jésus-Christ ? Lui aussi était populaire, extrêmement populaire. Il n'a passé que 3 ans de vie publique sur la terre, entre 30 et 33 ans, mais à l'époque, et malgré l'absence des médias, dans la Palestine, il y a 2000 ans, Jésus-Christ était l'homme le plus célèbre de son temps. Les évangiles nous disent que les foules l'acclamaient partout où il passait. Il provoquait des attroupements dans chaque ville, dans chaque village. Même quand il essayait d'être seul, les gens accouraient en masse auprès de lui. Lui aussi allait de ville en ville et de village en village. On ne peut pas appeler ça vraiment des tournées, mais il y a ce point commun avec Michael Jackson, le chanteur. Il voulait aussi transmettre quelque chose. Mais son but n'était pas de divertir, il voulait leur transmettre la bonne nouvelle, une bonne nouvelle de pardon, de réconciliation avec Dieu, de libération, de transformation. Jésus aussi avait des gens qui le suivaient, on ne peut pas appeler ça des fans, la Bible nous dit que c'était ses disciples. Il était tellement populaire que les gens grimpaient même dans les arbres pour le voir, que ses disciples jetaient leurs vêtements devant lui, sur son passage. Lui aussi était roi, la Bible nous dit qu'il est le roi des rois. Seigneur des seigneurs, le maître de l'univers devant qui tout genou fléchira. Que nous y croyons maintenant, que nous n'y croyons pas, tout genou fléchira devant Jésus-Christ un jour. Et alors qu'il se trouvait devant le gouverneur romain Pilate, accusé injustement de choses qu'il n'avait pas commises, et Pilate l'interrogeait, il lui a répondu, « Tu as raison, je suis roi. Je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute ce que je dis. » Et Pilate a répondu ce que tout le monde répond aujourd'hui dans notre monde de vérité relative. Qu'est-ce que la vérité ? Il l'avait en face de lui. Jésus a dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Il l'avait en face de lui et ne l'a pas reconnu. Et vous, ce matin, allez-vous reconnaître Jésus-Christ pour qui il est ? Jésus-Christ était roi, mais son royaume n'était pas de ce monde. ce n'était pas un royaume virtuel ou éphémère comme l'était celui de Michael Jackson, mais c'était un royaume spirituel, mais pourtant bien concret, éternel. Contrairement à Michael Jackson, Jésus-Christ fuyait les honneurs. Quand la foule a voulu le couronner comme roi, Jésus s'est retiré à l'écart. Et Jésus aimait bien être seul. Ce n'est pas qu'il était vraiment seul, il n'a jamais été seul sauf à un seul moment. Il n'était pas seul comme l'était Michael Jackson. D'ailleurs, il a dit, il avait cette communion constante avec Dieu son Père, il a dit, celui qui m'a envoyé est avec moi, il ne m'a pas laissé seul. Il n'a jamais été séparé de Dieu, jamais sauf à un seul moment, quand il a été cloué sur la croix, quand il subissait le châtiment à la place des hommes et des femmes pécheurs. À ce moment-là seulement, il a été séparé de Dieu à cause de notre péché. Et il a crié, « mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Michael Jackson était immensément riche, Jésus ne possédait rien. Il n'avait pas d'argent, pas de compte en banque en Suisse, aux îles Caïmans, pas de belles propriétés, pas de grosses voitures, même pas un âne pour circuler. Lorsqu'il a dû utiliser un âne pour entrer dans la ville de Jérusalem, il a dû l'emprunter, il n'avait rien. Il a donné tout ce qu'il avait, même le peu qu'on lui apportait, on lui a apporté 5 pains et 2 poissons. Il l'a distribué pour nourrir 5000 personnes. Il n'avait rien, mais il donnait tout. Il ne vivait pas dans sa bulle, à l'abri des microbes et des gens. Il parcourait tout le pays pour faire le bien, pour guérir, pour soulager, pour nourrir, pour libérer, pour consoler, pour enseigner. Il voulait nous montrer qui est Dieu. Il voulait rendre Dieu visible, concret, proche. La Bible dit de Jésus que son aspect physique était tout à fait ordinaire. Il n'avait pas de beauté ni d'éclat pour attirer nos regards, nous dit la Bible, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Il n'a jamais cherché à devenir quelqu'un d'autre. Jésus savait parfaitement qui il était. Il l'a dit de différentes manières. Il a dit, « Je suis le pain de vie, celui qui descend du ciel et qui donne la vie au monde. » Il a dit, « Je suis le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. » Il a dit, « Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. » Il a dit, « Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » Mais c'est énorme ce que Jésus dit. Ou bien c'est vrai, ou bien c'est le plus grand affabulateur de tous les temps, ou bien il était fou. Il n'y a que ces trois possibilités-là. Jésus-Christ savait parfaitement qui il était. Peu de gens aujourd'hui découvrent leur véritable identité et sont capables de donner du sens à leur vie. Mais Jésus-Christ savait qui il était et pourquoi il était venu sur la terre. Il est le Christ. Il est le Fils de Dieu. Il est Dieu venu jusqu'à nous. Il est venu partager notre condition humaine, vivre notre humanité de l'intérieur, nos souffrances. Il a eu faim, il a eu soif, tout comme nous. Ça faisait de lui quelqu'un de profondément heureux, Dieu venu à notre rencontre. Michael Jackson aimait se trouver sous les feux des projecteurs. Il aimait que les spots soient centrés sur lui, que la foule qu'il admirait reste dans l'obscurité. La Bible nous dit que Dieu est lumière et qu'il n'y a aucune obscurité en lui. Mais la lumière de Dieu n'est pas restée confortablement installée dans le ciel, inaccessible aux hommes qui auraient dû rester plongés dans leur obscurité spirituelle et morale. Non, Jésus-Christ, le Fils de Dieu, incarne cette lumière. Il a dit, « Je suis la lumière du monde. » Il dit, « Je suis venu dans le monde comme lumière, afin que quiconque croit en moi ne reste pas dans l'obscurité. » Jésus-Christ ne cherchait pas à être éclairé. Au contraire, par sa lumière, il est venu éclairer tout homme, toute femme qui accepte de lui confier sa vie. Voulez-vous que votre vie soit éclairée ce matin? Y a-t-il dans votre vie des zones d'ombre? Y a l'image que nous donnons à l'extérieur. Hein, on porte tous des masques, n'est-ce pas? Y a l'image que nous donnons à l'extérieur. Mais il y a deux personnes qui savent exactement qui nous sommes. Nous-mêmes et Dieu. Voulons-nous être éclairés par Jésus-Christ? Jésus-Christ ne cherchait pas en tout premier l'affection des hommes. Il n'a pas attendu que les hommes l'aiment. D'ailleurs, il a toute sa vie qui a été faite de gestes désintéressés, de bonté, d'amour, n'a récolté que le mépris, le rejet, Finalement, il a été accusé injustement. On l'a cloué sur une croix. Il n'a récolté que la souffrance et la mort. Il ne cherchait pas à être aimé. La Bible dit qu'il nous a aimés le premier. Ce qu'il voulait avant tout, c'est nous aimer. Bien sûr, il appelle notre amour en retour, mais il nous a aimés avant que nous soyons aimables, avant que nous l'aimions. Il ne cherchait pas à acheter l'amour comme Michael Jackson. Il est venu pour donner l'amour, pour se donner. Il voulait manifester la véritable nature de Dieu, qui est l'amour. Et c'est ce que Jésus a dit dans un verset qui résume le sens de sa vie comme de sa mort. Ce verset qui se trouve dans l'évangile de Jean, au chapitre 3, verset 16, il dit « Dieu a tellement aimé le monde ». Et vous savez, dans cet adverbe « tellement », il y a tout l'amour de Dieu. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, son unique, pour que tous ceux qui placent leur confiance en lui échappent à la perdition et aient la vie éternelle. Et c'est à chacun de nous qu'il fait cette offre ce matin, de placer notre confiance en lui pour échapper à la mort et recevoir la vie, vie nouvelle, dès maintenant, et vie éternelle. Et ce verset est la clé qui nous permet de décoder pourquoi de décoder ce que Jésus-Christ a accompli pour chacun de nous sur la croix. Il a parfaitement entendu ce cri de désespoir de l'humanité qui était exprimé par la bouche de Michael Jackson. Cette humanité esclave du mal, prisonnière du péché, éloignée de Dieu par sa révolte, par ses désobéissances quotidiennes, bête, mauvaise, parce que nous sommes sans Dieu et que nous sommes sans espérance, nous dit la Bible, séparés de Dieu à cause de notre péché. Tout comme Dieu a parfaitement entendu le cri d'espoir de Michael Jackson, qui est l'espoir de tout homme, ce désir d'amour, de reconnaissance et d'immortalité. Et la réponse de Dieu à nos cris d'espoir et de désespoir, c'est Jésus-Christ, son Fils. Dieu fait homme, Dieu venu à notre rencontre, Dieu venu nous toucher personnellement. Il nous a rejoints au plus profond de nous-mêmes, à la racine du mal, du péché. L'apôtre Paul écrit, voici une parole certaine et digne d'être accueillie par tous. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Et l'apôtre Paul ajoute, je suis le pire d'entre eux. Est-ce que c'était le pire des hommes? Non, il avait compris que face à la sainteté de Dieu, il n'y a que comme ça que nous pouvons nous voir. Oui, nous sommes le pire des pécheurs face à Dieu. Le péché nous entraîne dans la mort pour l'éternité. Nous dit la Bible, ça c'est la mauvaise nouvelle. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus-Christ est entré lui-même dans la mort pour nous faire entrer dans la vie et pour nous délivrer du péché. Et quand il a donné sa vie pour nous, Jésus-Christ a accepté d'être puni à notre place. Lui, le saint, l'innocent, il n'avait jamais rien fait de mal, aucun péché. Notre péché mérite la mort, nous dit la Bible, c'est son salaire, sa conséquence inévitable, mais la Bible nous dit que Jésus a apaisé la colère de Dieu contre nous. Nous n'oublions pas que Dieu est saint et juste. Dieu a apaisé la colère de Dieu contre nous en s'offrant lui-même pour nos péchés. Je ne sais pas quelle image vous vous êtes fait, quelle représentation vous avez de Dieu. Mais connaissez-vous le seul vrai Dieu, le Dieu qui s'offre pour vous, le Dieu qui souffre pour vous? Connaissez-vous ce Dieu-là? En faisant cela et en allant jusqu'au bout du don lui-même, Jésus nous a montré à quel point Dieu nous aime. Dieu prouve son amour envers nous, nous dit la Bible, lorsque nous étions encore des pécheurs. Le Christ est mort pour nous. Et vous savez, Jésus-Christ était un homme, parfaitement Dieu, parfaitement homme. Et devant la mort aussi, il a eu peur. Dans le jardin de Gethsémané, les évangiles nous disent qu'il a été saisi par l'angoisse à l'idée de porter le péché de l'humanité. Mais il n'a pas reculé. Pourquoi? Parce que son amour était plus fort que la peur. Son amour était plus fort même que la mort. Sa mort sur la croix nous démontre quelle valeur nous avons pour lui. Quel amour il vous porte. Je crois que c'est saint Augustin qui a dit « Dieu nous aime ». Dieu aime chacun de nous comme s'il n'avait que lui à aimer. Dieu nous aime personnellement. Je suis convaincu que si vous aviez été la seule personne sur terre, Jésus-Christ serait quand même venu mourir pour vous. Parce que vous valez la peine qu'il soit mort pour vous, parce qu'il vous aime. Et c'est comme ça qu'il répond à nos besoins de délivrance du mal, nos besoins d'amour, de reconnaissance et d'immortalité. Si Michael Jackson survit encore quelque temps, ce sera dans la mémoire de ses fans, on l'a dit, des historiens, des chroniqueurs musicaux. On va le, entre guillemets, ressusciter, mais dans nos mémoires seulement, chaque fois qu'on voudra sortir un CD, une compilation, ouvrir le tiroir caisse. Alors là, on va raviver sa mémoire. Mais Jésus-Christ n'est pas qu'une simple page d'histoire ou une célébrité qui fait vendre. Il n'est pas vivant seulement dans la mémoire de ses disciples. Il est ressuscité. Il est vivant aujourd'hui. Et Dieu l'a ressuscité pour nous montrer deux choses. Premièrement, que le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix est suffisant pour nous accorder le pardon de Dieu. C'est suffisant, il n'y a rien qu'on puisse faire de plus pour le recevoir. Et deuxièmement, Dieu est plus fort que le péché, plus fort que la mort. Il est vainqueur, il a ramené son Fils à la vie pour nous prouver qu'il nous donne la vie éternelle. Et parce que Jésus-Christ est ressuscité, nous savons avec certitude qu'un jour, nous aussi, nous ressusciterons pour vivre dans la présence de Jésus et pour nous éclairer à sa lumière, à son amour, à sa sainteté. Quelle est l'alternative ? Eh bien, c'est choisir de ne pas croire et de ne pas changer de vie. Vivre une vie à la Michael Jackson, ou peut-être pas avec le succès, mais en tout cas rechercher les choses que Michael Jackson recherchait, les choses qui ne satisfont pas. Savez-vous où cela nous mène ? Ça nous mène tout simplement là où Dieu n'est pas. Et là où Dieu n'est pas, c'est un monde sans amour, sans bonté, sans joie, sans paix. Un lieu où règne l'égoïsme, les remords, la haine, l'amertume, l'angoisse, la peur, la souffrance. C'est ça, l'enfer. L'enfer, c'est ça. Un lieu où Dieu n'est pas, mais où les hommes vivent éternellement les conséquences de leurs péchés. Et c'est de cela que Jésus-Christ veut nous sauver, des conséquences éternelles, mais aussi immédiates de nos péchés. Il veut nous changer, nous transformer à son image, donner du sens à notre vie. Dans 50 ans, qui se souviendra ? Nous l'avons dit de Michael Jackson, mais 2000 ans après, des millions d'hommes et de femmes voient toujours leur vie transformée aujourd'hui. Ils vivent avec une espérance. Pourquoi ? Parce qu'ils ont placé leur confiance en Jésus-Christ. Et ça a changé leur vie, ça a changé ma vie. Quand à 16 ans, j'ai pris cette décision. Et vous, qu'allez-vous décider ? Si la vie de Michael Jackson, en dehors de sa musique, a eu peu d'influence sur ses contemporains, sa mort n'en a eu absolument aucune. C'est la fin d'une vie beaucoup plus misérable que ce que les médias nous ont montré. Mais la vie de Jésus-Christ, parce qu'il est vivant, continue à nous inspirer aujourd'hui. Et sa mort et sa résurrection aujourd'hui, en 2010, continuent à être la seule voie du salut. Il n'y a de salut en aucun autre, nous dit la Bible. Jésus-Christ est le chemin qui nous relie à Dieu. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Personne ne peut arriver au Père, à Dieu, que par moi, a dit Jésus. Alors quel modèle allez-vous suivre, Michael Jackson ? Celui de la recherche du succès à tout prix. Et il y a beaucoup de jeunes dans notre assistance. Et quand on est jeune, on est ambitieux, on a envie de réaliser de grandes choses. Mais finalement, dans cette recherche du succès, on aboutit souvent à une vie creuse, vide de sens et remplie de désespoir. Ou bien allez-vous choisir Jésus-Christ ? Le chemin de la vie, la porte une vie nouvelle, tournée vers Dieu et vers les autres. Alors vous allez me demander, mais que faut-il faire pour suivre Jésus-Christ ? Eh bien, la Bible nous dit qu'il faut la foi, c'est-à-dire qu'il faut lui faire confiance, simplement. Il faut se reconnaître tel qu'on est, pécheur devant Dieu, et accepter, oui, de se reconnaître comme le pire des pécheurs face à la sainteté de Dieu, et de croire que Jésus-Christ est mort sur la croix à cause de cela, qu'il a subi à notre place, à votre place, la punition que vous méritiez pour vos péchés. C'est ça la foi. Croire ça, croire qu'il est ressuscité et accepter le pardon qu'il vous offre gratuitement. Et deuxièmement, la Bible nous parle aussi de repentance. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire simplement changement de comportement. Décider aujourd'hui avec l'aide de Dieu, de Jésus-Christ, de changer de comportement. Renoncer à votre vie passée qui est enchaînée au péché, entachée, souillée. Jésus-Christ a brisé vos chaînes. Il a dit, si le Fils de Dieu vous a franchi, vous serez réellement libre. Engagez-vous simplement, fermement, sereinement à lui obéir. Bien sûr que vous n'y arriverez pas tout seul, vous allez me dire, c'est sûr. Mais le Saint-Esprit est là. Jésus a dit qu'il mettrait son esprit en nous. Et c'est le Saint-Esprit qui nous donne progressivement la capacité de changer, et le caractère et la personnalité de Jésus-Christ s'emparent de nous. Et jour après jour, nous pouvons approfondir notre relation avec Dieu par la prière, par la lecture de la Bible, par la méditation. Et vous savez, ça change nos vies, n'est-ce pas? Et vous verrez que votre vie ne sera plus jamais la même, parce que les bénédictions et les promesses de Dieu sont vraies. Nous en avons tous fait l'expérience, tous ceux qui ont mis leur confiance en Dieu. Un seul exemple, et je termine avec ça, la paix intérieure. Les gens tueraient aujourd'hui pour avoir la paix intérieure, n'est-ce pas? C'est ce à quoi aspirent les hommes d'aujourd'hui. Eh bien, lorsque nous sommes réconciliés avec Dieu et que nous avons son pardon, quelle paix! On est réconciliés avec nous-mêmes, on n'a plus cette culpabilité, et on a envie de se réconcilier avec les autres, et on peut recréer des relations, parce que Jésus a mis sa paix dans notre cœur. Il a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse la paix, je ne vous la donne pas à la manière du monde. Ne soyez pas inquiets et ne soyez pas effrayés. Il y a tellement de gens inquiets aujourd'hui. La France et la Belgique se partagent le record du monde de la consommation tranquillisante. Tellement de gens inquiets. Michael Jackson n'a jamais connu cette paix-là, mais vous, aujourd'hui, vous pouvez la connaître. Dès maintenant, c'est l'expérience de tous ceux qui font confiance à Jésus-Christ. C'est la mienne. Et je vais maintenant vous donner l'occasion de prendre cette décision, de confier votre vie à Jésus-Christ. Et pour cela, nous allons prier. Nous allons passer un moment dans la prière. Et lorsque nous aurons prié, je vous demanderai de témoigner par un geste de la décision que vous aurez prise, si vous l'avez fait sincèrement, du fond du cœur. Je vous demanderai simplement de lever votre main, là où vous êtes. Ce geste, ce sera pour concrétiser votre engagement. Ce n'est pas un engagement qu'on prend à la légère. C'est un engagement qu'on prend devant Dieu et devant son Église. Et Jésus a dit, tous ceux qui se déclareront pour moi devant les hommes, je me déclarerai moi aussi pour eux devant mon Père céleste. Alors je vous invite à baisser la tête, à fermer les yeux, à entrer dans un moment de recueillement. Et nous allons prier, et peut-être que vous n'avez pas l'habitude de prier, et que les mots ne vous viennent pas. Alors vous pouvez peut-être répéter ce que je vais dire, mais vous pouvez aussi utiliser vos propres mots. L'important, c'est le langage du cœur et la sincérité devant Dieu. Jésus-Christ nous voit et lit dans notre cœur. Dites-lui, Seigneur Jésus, moi aussi je reconnais que je suis bête, que je suis mauvais. Peut-être qu'à l'extérieur, Seigneur, je passe pour quelqu'un de bien, mais au fond de moi-même, Seigneur, il y a toutes ces choses que je suis seul à connaître. Il y a mon caractère, il y a ma personnalité, il y a mes habitudes. Il y a toutes ces choses dont je suis esclave, Seigneur. Et j'ai compris que c'est à cause de tout ça que je suis séparé de Dieu, que je suis pécheur, parce que tu ne peux pas m'accepter comme tel. Mais aujourd'hui, Seigneur, la plus grande vérité que j'ai compris, c'est que tu m'aimes et que tu as poussé ton amour pour moi jusqu'à l'extrémité, en donnant Jésus-Christ qui est venu offrir sa vie sur la croix pour le pardon de mes péchés. Et Seigneur, je le crois. Je mets ma confiance en Jésus-Christ mort et ressuscité pour moi. Je te demande, Seigneur Jésus, de pardonner mes péchés. Mais je te demande aussi de changer ma vie, Seigneur. Je veux vivre libre, je veux être une nouvelle personne dès ce jour. Seigneur, change-moi profondément. Je veux que tu sois le sauveur de ma vie, mais aussi le Seigneur, le maître de ma vie. Seigneur, remplis ma vie de ton amour, de ta paix, de ta joie. Seigneur Jésus, je veux te suivre et que ma vie soit utile. Dites-lui ça. Seigneur Jésus, je renonce au péché et je veux te suivre. Et nous restons recueillis, les yeux fermés, la tête baissée. Nous respectons ce moment d'éternité pour plusieurs d'entre nous. Jésus a dit, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui, j'aurai une relation permanente avec lui. Jésus-Christ ne forcera pas la porte de votre cœur. Il n'entre pas dans nos vies par effraction. Alors aujourd'hui, il frappe à la porte de votre cœur. Voulez-vous lui ouvrir la porte? Si c'est oui, faites-le maintenant, levez votre main, faites-le. Là où vous êtes, oui, vous pouvez baisser votre main. Y a-t-il quelqu'un d'autre qui ait pris cette décision, qui ait ouvert la porte à Jésus-Christ? Levez votre main maintenant, en signe de cette décision, en signe d'engagement pour lui. Qui d'entre nous a dit « Oui, Seigneur Jésus, aujourd'hui, moi je t'accepte, je viens à toi, tel que je suis. Seigneur Jésus, je n'ai pas la force de changer, mais je t'en prie, change-moi. » Y a-t-il quelqu'un d'autre qui ait pris cette décision? Levez votre main maintenant, quelques instants. Dites oui à Jésus-Christ. Oui, vous pouvez baisser votre main. Y a-t-il encore quelqu'un d'autre qui ait pris cette décision? Oh, c'est difficile. Je connais nos résistances face à l'amour de Jésus-Christ. Vous demandez sans doute ce que ça coûte de suivre Jésus. Mais est-ce que vous avez réfléchi à ce que ça coûte de ne pas le suivre? Jésus a dit aujourd'hui, la Bible dit aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Alors dites oui à Jésus-Christ, comme deux personnes l'ont déjà fait. Y a-t-il encore quelqu'un d'autre maintenant? Levez votre main. Jésus-Christ vous appelle. Oui, vous pouvez baisser votre main. Y a-t-il encore quelqu'un d'autre? Nous n'allons pas prolonger indéfiniment ce moment parce que nous ne jouons pas sur les émotions, mais nous ne voulons pas que vous laissiez passer l'occasion. Oui, vous pouvez baisser votre main. Y a-t-il encore quelqu'un qui ait pris cette décision? Jésus-Christ est venu avec la simplicité de l'amour. Venez à lui avec la simplicité de l'amour. Levez votre main, mettez votre main dans la sienne. C'est la dernière fois que je fais cet appel. Alors y a-t-il encore quelqu'un qui veuille prendre cette décision du fond de cœur? Levez votre main maintenant. Votre main se lève. Quelques instants, nous pouvons prier pour vous. Y a-t-il encore quelqu'un? Dites oui. Seigneur Jésus, merci pour ces quatre personnes qui ont pris devant toi et devant ton Église, Seigneur, cette décision de t'ouvrir leur cœur, de recevoir ton amour et ton pardon, et qui ont pris aussi cette décision de changer de vie avec ton aide, de vivre à ta suite. La Bible dit qu'il y a de la joie dans le ciel pour un pécheur qui se repent. Alors il y a aussi de la joie dans ton Église, Seigneur, pour des gens qui décident de changer de vie et de te confier leur vie. Parce que nous sommes tes enfants, Seigneur, et nous sommes heureux d'accueillir dans ta famille de nouveaux enfants de Dieu. Seigneur, nous te prions pour chacune et chacun de ceux qui ont pris une décision ce matin. Te demandons, Seigneur, d'approfondir cette décision par une relation avec toi, Seigneur, qu'ils apprennent à te connaître et à te faire connaître aussi. Seigneur, tu as dit que tu serais avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous croyons à cette promesse qui est vraie. Elle est vraie pour eux comme elle est vraie pour nous, Seigneur. Seigneur Jésus, révèle-toi de plus en plus dans leur vie et remplis cette vie de ton amour. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen.